Salut à toutes et à tous, c'est Manon, vous écoutez 3 en 1 sur le 94 FM.
Et salut à toutes et à tous, ici Nina. Et avant de se lancer dans l'émission du jour, voici en quelques mots les résultats du premier tour des élections municipales à Rennes. La liste d'Union de la gauche Rennes solidaire menée par Nathalie Appéré arrive en tête avec 34,5% des voix exprimées. Arrive en seconde position la liste d'Union du centre Vivre Rennes avec Charles Compagnon, menée par ledit Charles Compagnon, avec 22,4% des voix exprimées. Puis arrive en troisième position la liste de la France Insoumise, Faire mieux pour Rennes, Union populaire et écologiste, liste menée par Marie Mesmer, avec 18,6% des voix exprimées. Ces trois listes ayant obtenu respectivement plus de 10% des voix, elles sont toutes maintenues au second tour. C'est donc a priori une triangulaire qui aura lieu ce 22 mars à Rennes.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, notre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a
les villages.
Qui dit qu'on n'a pas de mémoire ?
L'agriculture est en train de crever, sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond !
De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bienvenue dans 3 en 1, votre émission d'actualité locale sur Canal B. Il est midi 15 et nous sommes lundi 16 mars, ou mardi si vous nous écoutez en rediff. Si c'est le cas, bonne matinée à vous. Et on se retrouve au lendemain du premier tour des municipales, et donc aujourd'hui pour la dernière de nos 4 émissions spéciales sur le sujet. Et comme depuis quelques semaines, à l'occasion des municipales 2026, l'équipe de 3 en 1 explore des sujets de société qui touchent les Rennais et les Rennaises, et nous avons fait le choix de ne pas inviter de candidats et candidates à la municipalité, mais des experts ou responsables associatifs venant de différents horizons pour répondre au sujet de nos 4 thématiques. Et le programme de l'émission du jour porte sur une question très importante qui se pose à Rennes, la question du logement et notamment des logements sociaux. Et pour l'interview du jour, nous avons reçu deux membres de la CLCV, donc pour Consommation, Logement et Cadre de Vie, qui est une association défendant les consommateurs et les droits des locataires. Les invités étaient donc Amandine Fourreau, chargée de mission, et Gervais Pinel, coprésident de l'association de la CLCV en charge du logement. Et c'est Manuel Perreux, bénévole de l'émission 3 en 1, qui a réalisé cette interview. Il est avec moi aujourd'hui en plateau. Déjà, comment s'est passée l'interview ?
Eh bah, ben très bien, c'était ma première émission en studio vraiment, donc vraiment dans les conditions optimales de Canal B, donc ouais j'étais très content de faire cette interview aujourd'hui.
Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi vous avez parlé lors de cette interview ?
Alors justement on voulait aborder la question du logement à Rennes parce que c'est vraiment un sujet principal, enfin vraiment un sujet majeur pour les municipales et notamment la question des logements sociaux, qui a accès, comment ça se passe et le fait d'avoir deux invités qui connaissent vraiment bien la situation rennaise et tout ce qui peut être fait justement pour les locataires, c'était vraiment super intéressant à aborder.
Le premier tour des municipales a donc eu lieu hier. Le logement, comme on l'a dit, fait partie des premières préoccupations des Rennais et Rennaises. C'est un sujet qui inquiète beaucoup les étudiants, par exemple, surtout quand on sait qu'il y a environ 73 000 étudiants dans la capitale bretonne. Et pour cette émission spéciale logement, nous nous sommes rendus dans les quartiers de Villejean et Bréquigny. Nous sommes allés à la rencontre des habitants et habitantes de Rennes pour leur demander leur ressenti à propos de la situation du logement aujourd'hui. Et nous avons demandé aux Rennais et Rennaises, locataires, s'ils ont rencontré des difficultés pour trouver un logement sur Rennes.
Ça a été assez facile et en fait le loyer il est pas si cher, mais c'est parce que la partie là des galères. Donc je sais pas si l'année prochaine je vais devoir changer ou pas. Il y en a qui me disent ouais faut changer, c'est critique. Il y en a qui me disent non ça passe.
Déjà j'ai été accepté à Rennes en fin d'année, vers juin-juillet. J'ai eu du mal à chercher un logement. Je suis allé sur un maximum de sites qui mettaient en annonce des logements. Malheureusement il y avait que des logements à des prix assez élevés. Mais comme je pouvais pas rester chez moi, j'ai dû faire l'impasse. Et actuellement, je suis en colocation du coup au Blône. Ça se passe très très bien, mais le prix reste quand même très élevé. C'est 520€ par mois. Mais du coup là, je suis en pleine recherche et réflexion pour tenter de trouver un nouveau logement l'année prochaine.
On a eu nos résultats de master tout début juin. Et moi, j'ai trouvé mon appart genre mi-août. Et j'habite à plus de 1000 km de Rennes, donc c'était pas possible en fait de faire des visites d'appartements du jour au lendemain. Et c'est souvent, que ce soit des particuliers ou des agents, ça fonctionne comme ça. Et du coup, bah, forcément, ça donne des frais de déplacement où on n'est même pas sûr de pouvoir se loger à la fin. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que le seul appartement que j'ai pu visiter, c'est celui que j'ai eu. Ouais, ça a été un enfer en vrai.
Rennes, c'est saturé. Il y a de moins en moins de place. Et moins il y a de place, plus c'est cher. Mais je vois, j'ai des collègues qui habitent à Vezin, par exemple. Les prix ont grimpé. Donc maintenant, quand on a une famille et qu'on veut un logement, il vaut mieux avoir une voiture et puis aller habiter un peu plus loin. Avant, c'était pas comme ça à Rennes, mais Rennes, ça commence à ressembler de plus en plus à Lyon ou à Paris. Ouais.
Une ville doit s'occuper un minimum de ses habitants, ses citoyens. Et donc, le logement en fait grandement partie. Du coup, ça doit être un sujet qui doit être mis sur la table. Après, effectivement, ils n'ont pas tout pouvoir sur ce sujet-là. Donc que ce soit discuté, que ce soit débattu, qu'il y ait des prises de conscience et même des voies ouvertes qui sont parfois pas assez données, ce serait cool. Si le sujet est mené et qu'on puisse en discuter, ça va peut-être donner plus envie aux habitants, aux citoyens d'aller voter tout simplement et de prendre ça au sérieux. Donc ouais, je trouve que c'est un sujet important.
Un appart. Pourtant, vous savez tous que c'est perdu d'avance. Vos parents, ils vont claquer l'héritage dans les pattes de bébé et vous avez une chance sur un milliard de gagner au loto.
D'écouter Jamais Proprio de Droge sur Canal B. Et on retrouve maintenant Manuel Perreux pour l'interview du jour avec Amandine Fourreau et Gervais Pinel de l'association Consommation Logement Cadre de Vie.
Habiter à Rennes, est-ce que c'est devenu trop compliqué ? En pleine période d'élection municipale, la question du logement est un sujet qui revient dans les préoccupations des habitants et habitantes et les programmes des candidats et candidates. Pour cette quatrième et dernière émission spéciale, nous avons choisi d'aborder dans 3 en 1 la situation des logements sociaux. Et pour en parler, nous recevons 2 membres de la CLCV, l'association Consommation Logement Cadre de Vie, Amandine Fourreau, chargée de mission, et Gervais Pinel, coprésident en charge du logement. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors justement, pour commencer simplement, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi consiste l'action du CLCV ?
Alors déjà, on est une association nationale, donc on a un secrétariat national et chaque association locale est indépendante.
Okay.
Et on travaille sur 4 missions principales à Rennes, l'information via des articles, des communiqués de presse, des ateliers, etc. La défense, évidemment, des citoyens et des citoyennes. Conciliation à l'amiable entre les deux parties, mais on peut aussi ester en justice, saisir le tribunal. On fait de la formation avec des ateliers, des conférences. Et on représente aussi les citoyens et les citoyennes dans des instances. Par exemple, lutte contre l'habitat indigne, habitat des plus défavorisés, groupe de travail sur Rennes Métropole, précarité des jeunes, etc. Sur le logement, plus spécifiquement, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, on va avoir de l'accompagnement et de l'orientation individuelle. Donc moi, je suis chargée de mission logement, donc je reçois une fois par semaine en physique et une fois par semaine par téléphone les locataires, principalement en logement social. Et donc, bah, ils m'exposent leurs problématiques. Et moi, j'agis. Souvent, c'est des litiges avec le bailleur. Humidité, travaux non effectués, dépôt de garantie, état des lieux, etc. Donc, j'informe sur les droits. Je peux aider sur les dossiers, faire de la médiation avec les bailleurs. Si je vois que la problématique, elle n'est pas que sur le logement ou que c'est des problématiques que nous, on ne traite pas, j'oriente vers des partenaires. Cité Médiation, le PIM, Sion Salier, les centres sociaux, etc. Les CEDAS, centres d'action départementales. Sur le logement, on fait aussi des actions collectives. Peut-être là, je peux te laisser rentrer.
Alors oui, donc les actions collectives, c'est-à-dire que souvent, donc, en fonction évidemment des situations, on va proposer aux locataires, par exemple, quand il y a un groupe de locataires, on va créer ce qu'on appelle un groupement de locataires, donc ce qui permet justement d'avoir un meilleur poids vis-à-vis donc, du bailleur. On est toujours dans la médiation. Hein. On va les rencontrer, donc les locataires concernés, et ensuite on va aller rencontrer le bailleur, et on va expliquer la situation. Et c'est souvent comme ça qu'on s'aperçoit que on a plus de facilité pour obtenir ce qu'on recherche et ce que le locataire a vraiment besoin. Hein, ça, c'est très important par rapport à ça. Donc, c'est surtout, on est beaucoup sur la médiation.
C'est juste que moi, si ça ne fonctionne pas, l'aspect médiation, conciliation que je peux faire, les dossiers vont vers notre collègue qui est juriste.
D'accord.
Et qui, là, va plus travailler à l'écrit avec le bailleur sur des rappels à la loi, lorsque les premières intentions ne fonctionnent pas.
Et alors, la première question en lien avec ça dont je me posais, c'est est-ce que Rennes est un cas particulier à l'échelle nationale ? On entendait une personne dans le micro-trottoir, du coup, qui comparait, par exemple, à d'autres grandes villes. Est-ce que vous trouvez que Rennes, c'est un cas particulier ou finalement, dans la continuité d'autres grandes métropoles ?
Non, Rennes n'est pas un cas particulier, malheureusement. Donc, c'est le problème phénomène de grandes villes, des grandes métropoles. Et il y a aussi la particularité aussi que Rennes, c'est une ville où il y a de plus en plus de jeunes. Ça veut dire que c'est une ville dynamique, donc tant mieux, hein, c'est très bien. Par contre, c'est vrai que qui dit beaucoup de monde dit le logement, et je sais dans le micro-trottoir, on a entendu ça aussi, c'est-à-dire que c'est une galère pour trouver un logement. Donc, il y a des systèmes de colocation. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi, et ça c'est dans la négociation qu'on voit ça au niveau des bailleurs, hein, les 4 bailleurs ou 5 bailleurs sociaux qu'on a sur Rennes, ils sont en train de réfléchir justement sur les systèmes de colocation à l'intérieur des HLM. Donc voilà, ça veut dire que ça va dans le sens aussi évidemment du jeune. C'est pas un cas particulier à Rennes, pourquoi ? Parce que aussi, il y a énormément de demandes. Hein. Moi je participe parce que je suis administrateur, étant élu, représentant la CLCV auprès de chez Archipel Habitat, donc je participe au conseil d'administration. Souvent, on leur explique qu'il y a beaucoup de demandes. Et on s'aperçoit aussi que, au départ, le logement HLM était plutôt pour un jeune couple. On s'installe, on se met en couple, on commence dans la vie, et ensuite, on va aller acheter une maison ou acheter un logement. Et on s'aperçoit que, maintenant, c'est très cher sur Rennes, hein, que ce soit dans le privé ou même sur les maisons, les pavillons et tout ça, ça devient complètement inabordable. Je participe à ce qu'on appelle la commission de
attribution des logements.
Attribution logement, j'ai eu un trou de mémoire. Et on voit que il y a de plus en plus de couples avec deux salaires qui font une demande de logement en HLM. Alors ça veut bien dire que le niveau de pauvreté, malheureusement, est bien présent. Alors c'est vrai qu'on dit un couple de salaires, oui, mais souvent on le dit, c'est pas normal que par exemple les entreprises profitent un petit peu du système je vous embauche à 60% et puis après vous avez la prime d'activité que vous serez versée, et donc mais ça n'enrichit pas le foyer, et donc ils sont obligés d'aller se tourner vers les demandes d'HLM.
Pour avoir une petite précision, vous savez à peu près ce que ça représente en part de la population rennaise qui serait actuellement concernée justement par les logements sociaux ?
Sur 2024, en tout cas, les chiffres qu'on a, c'est que sur environ 30 000 demandes, il y a 4 192 logements attribués. C'est-à-dire que pour 7 demandes, il y a une attribution.
Ah oui, d'accord.
Il y a un PLH, plan logement de l'habitat de Rennes Métropole, qui indique qu'environ un tiers des Rennais vit actuellement en logement social.
Un tiers.
Okay. Ouais. Mais c'est quand même voilà, 7 demandes pour une attribution. Donc évidemment, bah voilà, on est très loin. C'est énorme comme chiffre.
Excusez-moi de vous couper. On est sur une situation qui a empiré ou finalement qui est dans la continuité?
C'est une situation qui s'empire. Pourquoi? Parce que ben justement, comme je vous disais tout à l'heure, les gens ont tendance à rester beaucoup plus longtemps dans le logement social. Les moyennes, on avait vu des chiffres, hein, les gens ont tendance à rester beaucoup plus longtemps parce que c'est pas facile de trouver maintenant après un pavillon ou quoi que ce soit, ou un logement privé.
En fait, c'est aussi à l'image de ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'il y a une précarité plus forte dans la société, avec des situations d'urgence aussi qui sont plus fortes. Des familles monoparentales, des personnes à la rue, des pertes d'emploi, des situations d'urgence. Ben ça, voilà, ça englobe l'ensemble de la société et ça touche forcément le logement. C'est de pire en pire, ouais.
Et vous voyez des différences entre les différents quartiers de Rennes ?
Alors oui, on a été récupérer un peu des chiffres là-dessus, pour être de l'Audiard, qui est Agence d'urbanisme de Rennes. Et donc, par exemple, sur l'ensemble des logements sociaux, 43% des logements sociaux se trouvent dans les QPV, donc quartiers prioritaires ville de Rennes, Clenay, Bréquigny, Le Blau de Morpa et Villejean. C'est environ 7 résidences principales sur 10 dans ces quartiers-là. Donc voilà, sur 10 résidences principales, il y en a 7, c'est du logement social. Et on a des différences énormes. Bon, alors là, j'ai pris forcément des quartiers aux antipodes. Tabor, quartier Tabor, Alphonse Guérin, on va avoir 6,1% de logements sociaux. Sud-Gare, 13%. Et Morpa-Bélangerie, 46% quasiment. Et aussi, ce qu'on a un peu découvert d'ailleurs, c'était intéressant de rechercher ça, c'est l'état des logements et leur année de construction. Ou pareil, on va avoir au Tabor 4% de logements qui ont plus de 50 ans et 84% qui ont moins de 20 ans, donc 84% assez récent. À l'inverse, le Blône, par exemple, 92% des logements sociaux ont plus de 50 ans.
Okay.
Donc forcément, on est vraiment où il y a des disparités énormes entre les quartiers.
Ça m'amène à la question que j'allais justement vous poser, c'était de savoir dans quel état était un peu le parc locatif actuel, parce qu'on peut se poser la question finalement, est-ce qu'actuellement on a suffisamment de bâtiments, mais finalement c'est une question d'entretien, de pérennité, ou finalement il y a une urgence de construire des nouveaux lieux?
C'est le gros dilemme hein, des bailleurs. Évidemment qu'il y a besoin de réhabilitation, hein, c'est ce qu'on appelle ce genre de phénomène, mais il faut aussi construire. Donc c'est très compliqué. En plus, donc, vous avez des grandes tours sur Morpa qui sont en cours de réhabilitation et c'est vrai que c'est quand même très apprécié par les locataires. Mais il y a un mais. C'est que les loyers augmentent de 5% en moyenne à cause des travaux. Ce qui fragilise encore plus certains niveaux de familles où c'est très compliqué de payer un loyer. Alors quand il faut payer le loyer, la nourriture et tout cela, donc c'est vrai que ça devient compliqué par rapport à ça. Et on le s'aperçoit parce qu'on nous dit, là c'est notre cheval de bataille hein, au niveau des associations de locataires, c'est de dire attention, vous voulez augmenter de 5% les loyers, ok. Mais parce que on nous prétexte qu'il y a des économies d'énergie. Mais c'est que des probabilités, c'est pas vérifié systématiquement. Donc nous, on est en train de se battre là-dessus en disant on veut aussi des chiffres avant et après réhabilitation pour comprendre un peu leur démarche. Je trouve que c'est un peu facile de tout reporter sur le locataire. Et ça, je pense qu'on aura encore dans les années à venir un gros travail là-dessus à faire pour défendre les locataires. Ensuite, donc, c'est vrai qu'il faut aussi construire, mais il y a aussi le problème de l'espace, parce qu'il y a ce qu'on appelle le SRU. Vous savez, cette fameuse loi qui impose aux communes d'avoir un minimum de logements sociaux sur leur parc. Mais malgré tout, c'est difficile de trouver maintenant des terrains pour pouvoir construire. Alors on y dit, oui, on va passer par le système, par exemple, un petit immeuble de 2 ou 3 étages, on va reconstruire dessus, comme ça, ça permet de pouvoir loger plus de personnes. On s'aperçoit que c'est pas aussi évident que ça, c'est aussi un coût assez conséquent. Ça oblige aussi au niveau technique d'avoir des ascenseurs, quoi que ce soit, alors qu'il n'y avait pas au départ. Je peux comprendre que ce soit très compliqué de construire. Mais il va falloir, comme disait Amandine, sur le quartier du Blône, c'est vrai que c'est impressionnant le taux de réhabilitation qu'il va falloir investir. Et évidemment, quand on investit dans la réhabilitation, on n'investit pas dans du neuf. En plus, les aides de l'État, malheureusement, se réduisent en peau de chagrin.
C'est ce que je me demandais justement, comment on fait pour financer ces projets-là?
Et c'est là le problème. Et je pense qu'on nous a souvent, ça fait 4 ans maintenant, qu'on augmente systématiquement les loyers. Nous, on est contre, les associations de locataires. En 3 ans, ça a pris plus de 12% d'augmentation de loyers. Et là, c'est tout le monde concerné. C'est pas une catégorie ou quoi. C'est vraiment tout le monde. On appauvrit quand même sérieusement la population par rapport à ça. Alors, on nous dit, oui, mais c'est pour pouvoir financer soit de la réhabilitation ou du neuf. Mais bon, c'est toujours très stressant de voir ces situations-là qui malheureusement perdurent. Et quand disait Amandine sur les chiffres, quand on a à peu près 30 000 dossiers en attente, et en voyant les urgences qu'il y a, malheureusement, je ne vois pas trop comment on va évoluer par rapport à ça. C'est pour ça que là, on en a discuté encore hier chez Archipel Habitat, c'est aussi de favoriser l'élection, parce qu'il y a des élections de représentants de locataires HLM en fin d'année. Et ça, c'est un point très important pour les locataires, c'est d'avoir une meilleure représentativité, parce que le taux de participation à ce type d'élection, c'est aux alentours de 9-10% des votants. C'est vraiment très compliqué après d'aller voir les bailleurs en disant, attendez, vous représentez quoi par rapport à tous les locataires?
Vous pensez que les locataires, du coup, sont bien informés sur le sujet, ou il y a encore beaucoup de choses où vous dites, il y a quand même pas mal de méconnaissances?
Ouais, il y a quand même de la méconnaissance sur qui a le droit aux logements sociaux. Une fois qu'on est dans un logement, à quoi on a le droit? C'est l'accès aux droits, donc c'est aussi tout un travail sur l'ensemble des droits dont les personnes peuvent bénéficier, que ce soit sur le logement, le transport, l'emploi, etc., toutes les aides. Ça, il y a beaucoup de méconnaissance, ça c'est sûr. Et je voulais juste revenir parce qu'au-delà de la réhabilitation et de la construction, il y a aussi un travail politique à mener. Que la CLCV prône, c'est aussi sur le logement privé, c'est l'encadrement des loyers. Il y a des logements vacants à Rennes, la régulation des meublés touristiques. Donc oui, il y a du travail à faire sur le HLM, mais pourquoi aujourd'hui, c'est ce que disait Gervais tout à l'heure, pourquoi on en est là? C'est parce que les gens ne peuvent plus se loger dans le privé. Il y a une spéculation importante du logement privé. Et c'est aussi ça que les villes et les communes, elles doivent absolument réguler pour que des ménages qui avant ne se logeaient pas en HLM puissent accéder à la propriété et accéder à de la location privée comme avant. Alors que là, forcément, il y a tellement de gens qui ont accès et qui demandent du logement social que les plus précaires eux-mêmes sont en attente pendant des années, quoi.
Ouais.
Donc, c'est pas normal. Donc il y a pas que. Faut aussi traiter le problème un peu à la source, ou avec le prix des loyers qui augmente et la spéculation qu'il y a là-dessus, quoi.
À l'instant, Le Bonheur de Zélie Zénon, et vous êtes toujours sur Canal B, toujours dans 3 en 1, pour la dernière des 4 émissions spéciales municipales sur la thématique du logement à Rennes. Et on retourne en plateau avec Amandine Fourreau et Gervais Pinel au micro de Manuel Perreux pour nous parler de la problématique du logement à Rennes dans le cadre des municipales.
Et est-ce que vous pensez qu'avec les bailleurs privés, les municipalités ont en quelque sorte perdu la main ?
Oui, je pense qu'ils ont perdu la main. Ils ont perdu la main parce que je m'aperçois, c'est quand on voit la constitution des dossiers d'une construction, automatiquement, il y a différentes lignes, aide de l'État, alors ça peut être l'État, mais c'est aussi l'aide, par exemple, du FEDER, donc c'est les fonds européens. Tout ça représente maintenant qu'une petite partie, alors qu'au départ, c'était pratiquement 50% de l'investissement. Maintenant, ça représente entre 15 et 20%. D'accord. Donc, l'État se retire progressivement. Donc, automatiquement, c'est aux bailleurs, même aux privés, hein, de se dire, il faut mettre plus d'argent dans le paquet. Mais alors, la particularité, c'est que le bailleur privé, lui, va faire en sorte qu'il y ait une rentabilité. On sait très bien que, par exemple, un investisseur privé, quand il investit, par exemple, sur un bâtiment, les grands groupes, la Motte, enfin, tout ce que vous voulez, eux, ils ont un taux de rentabilité de 3%. C'est-à-dire que quand ils investissent 100 euros, il y a 3 euros qui leur reviennent financièrement. Le bailleur social, c'est un peu moins, c'est à peu près entre 1,5 et 2%. On aurait pu en parler aussi, c'est le phénomène de co-living. Mais on s'aperçoit que c'est un phénomène qui grandit énormément sur Rennes. Il y a 4-5 ans, on n'était qu'à 200 ou 300 logements. Maintenant, on arrive bientôt à 1000 logements.
Ouais. Alors, vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, le co-living ?
Donc c'est un truc tout simple, c'est un investisseur qui va faire un petit immeuble, il va dire « je vais faire un système de colocation, chacun aura sa propre chambre, sa sanitaire, sa salle de bain, et au rez-de-chaussée il va y avoir une cuisine, petite salle de cinéma, enfin il y a même une petite salle de sport, c'est super. »
Ouais, il y a même, on peut payer la prestation de ménage.
C'est très bien, sauf que c'est réservé aux étudiants et aux jeunes actifs. Or, on s'aperçoit que les loyers, par contre, tous les mois, c'est 800 ou 900, voire 1000 euros à payer. Et ça ne rentre plus dans le cadre de la construction. Donc, en fin de compte, l'investisseur fait, entre guillemets, ce qu'il veut. Là, je sais que notre collègue juriste a été obligé de gérer un cas là, pour la récupération le dépôt de garantie. Et en fin de compte, s'est aperçu qu'il prélevait telle ligne. Alors, on est allé chercher plus loin, on a creusé un peu. Et on s'est aperçu que, comme tout à l'heure, je vous disais, un investisseur immobilier, c'est 3% de rentabilité sur ce projet-là, par exemple. Pour ces gens de co-living, ceux qui favorisent ce genre de choses, c'est 8% de rentabilité.
Ce que disait un peu notre collègue, c'est que c'est aussi des niches juridiques, c'est des nouveautés. Donc à un moment, c'était plutôt le tourisme. Donc les gens, il y a eu l'envolée d'Airbnb, là c'est un peu plus contrôlé. Donc ils ont trouvé autre chose. C'est des spéculateurs, c'est des investisseurs, ils trouvent autre chose. Là, c'est encore très peu contrôlé. Moi, il y a des députés quand même qui se penchent sur la question pour qu'il y ait des lois. Mais tant qu'il n'y en a pas, et puis quand il y aura une loi, ils trouveront un autre modèle.
Voilà.
Ils chercheront un autre modèle, ils le trouveront et ils spéculeront sur le logement parce que c'est la base.
Et justement, concrètement, qu'est-ce qui peut être fait ? Comment est-ce qu'on peut réguler au niveau de la municipalité ? Parce que c'est vrai qu'en termes de cadre, c'est la question qui revenait souvent, c'est de se dire finalement, qu'est-ce qu'une ville a, entre guillemets, le droit de faire par rapport à ça ou qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre de faire actuellement ?
C'est toujours gênant de se dire que il faut en parler. Non, il faut des actes. Et les actes, malheureusement, on est devant les faits accomplis. C'est le phénomène du coût, le phénomène financier pour les communes, pour les villes. Mais il faut encore, je pense, être très attentif à ce phénomène de problème de logement. Et on le voit bien parce que il y a certains quartiers qui pourraient encore faire attention sur comment construire. Le problème, c'est ça. J'ai l'impression qu'on tourne en rond parce qu'on nous dit mais il y a le coût, mais il y a un problème d'espace. Il va falloir quand même penser aux gens qui aient au minimum un toit. Et là, c'est compliqué, c'est vrai. Il y a encore gros pas à faire. Il y a surtout une pression à maintenir auprès des équipes municipales et puis auprès des politiques. Mais autant vous dire aussi, quand on dit il faudrait beaucoup plus d'argent pour financer, on va nous répondre mais c'est l'État. Donc, dans ces cas-là, c'est plutôt les députés ou les sénateurs qu'il va falloir inviter à réfléchir sur ce phénomène.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que c'est plutôt, on va dire, aux équipes municipales potentielles de remonter ces informations auprès des députés et des sénateurs.
Après, il y a un peu des deux, je pense, parce qu'il y a à la fois le budget de la municipalité qu'elle oriente. C'est des choix quand même qui sont politiques de ce qu'on veut pour nos citoyens et citoyennes. Donc, et après, forcément, le budget de la municipalité, elle ne vient pas de nulle part. Donc oui, forcément qu'il y a aussi, ça vient d'en haut. Donc voilà, il y a des choix politiques et de l'État et des municipalités et tout ça, voilà, ça va jouer en faveur ou pas des locataires. Et il y a aussi, ça c'est pas les municipalités, mais pareil, on parlait des réhabilitations. Nous, on essaie aussi de promouvoir l'entretien régulier des logements, des immeubles, où voilà, des fois ça laisse un peu couler malgré les locataires qui alertent sur l'humidité, sur tout ce qu'il peut y avoir, l'écaillement des parties communes. Enfin, on se fait la remarque tout le temps, on voit des fois des logements, enfin, ça va pas du tout, quoi. Et c'est pas faute d'alerter. Et bah forcément, après, quand on attend qu'il y ait une réhabilitation, ça coûte très très cher. Alors que peut-être qu'il y a un défaut, je peux pas être sûre de moi, je ne travaille pas chez un bailleur social, donc je ne connais pas l'aspect technique, mais en tout cas, c'est ce que nous, on peut remarquer sur le terrain, et c'est ce que les locataires aussi nous disent, quoi. C'est qu'on a beau alerter, bah, les travaux ne sont pas faits.
Oui, il y a voilà. Aussi l'aspect technique hein, qu'on est en train justement de relever là, auprès des bailleurs. C'est la soi-disant nouveauté des années 80 de faire des toits plats, parce que c'est beaucoup moins coûteux à la construction. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est catastrophique au niveau des infiltrations et tout ça. Alors, les bailleurs ont tendance à répondre en disant c'est le locataire qui ouvre pas assez sa fenêtre, par exemple, qui n'aère pas, donc c'est pour ça qu'il y a de l'humidité. Et en fin de compte, on s'aperçoit que non, c'est pas ça, c'est sur le toit. Les problèmes d'étanchéité des toits plats qui font que ce phénomène-là, malheureusement, on le remarque de plus en plus. Et c'est la preuve, c'est que justement, les bailleurs sur Rennes, mais enfin même au niveau breton, se posent la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour pallier à ce phénomène ? Alors c'est vrai que dans les années 80, faire un toit avec des ardoises et tout, enfin comme les anciens faisaient, ça représentait un coût, mais il y avait bien une raison. Et la preuve, c'est que maintenant, aujourd'hui, alors on se dit ça rentre peut-être dans les garanties décennales. Bon, vous savez, les garanties sur la construction, sur 10 ans. Mais on s'est aperçu, en regardant de plus près sur les garanties décennales, on s'aperçoit que si c'est un défaut d'entretien, ça rentre pas dans ce cadre de garantie décennale. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, il faut faire un entretien annuel. Alors, ça représente à peu près, de mémoire, entre 800 et 1000 euros sur un toit de 100 mètres carrés. Alors, imaginez le nombre d'immeubles à toit plein sur Rennes, le budget qu'il va falloir consacrer. Et ça, je pense que c'est pareil, l'architecture, on dit c'est super, c'est beaucoup plus pratique, ça revient moins cher, sauf que maintenant on s'en aperçoit que ça pose problème au niveau économique.
Très bien, écoutez, merci beaucoup Amandine Fourreau, Gervais Pinel du CLCV d'être venu répondre à ces questions sur le logement sur 3 en 1.
Merci de nous avoir invités.
Merci.
Merci à Gervais Pinel et Amandine Fourreau d'avoir répondu aux questions de Manuel Perreux au micro de 3 en 1. Et merci aux René et Rennes qui ont répondu à nos questions dans les quartiers de Villejean et Bréquigny. 3 en 1, c'est fini pour aujourd'hui et c'était la dernière émission spéciale municipale. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dès mercredi à 12h15 ou en podcast sur le site canalb.fr. Bonne journée à vous.